Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question d'Yves dans les Côtes d'Armor. Pourquoi ne parle-t-on pas de réduction du train de vie de l'Élysée, des ministères, de l'Assemblée nationale et du Sénat? Là, on parle des économies. La ligne dure, Guillaume Daret, pour faire des économies. Peut-être ça commence par là?
Absolument. Bah, ça va, c'est étonnant. D'ailleurs, c'est vrai que ça ne soit pas encore revenu dans le débat politique. Le budget de l'Élysée, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un peu plus de 100 millions d'euros par an, je crois, entre 100 et 110 millions. Ça évolue en fonction des années. Par exemple, le Covid, il y avait très peu de déplacements de fête du chef de l'État. C'était moins important, un peu plus important l'année dernière. Mais c'est vrai que ce qui est difficile à faire passer souvent dans l'opinion publique, de par les gouvernants, ou par exemple, on avait vu à l'Assemblée nationale il y a quelques années, c'est dans des quartiers de Paris où ça coûte très cher. Finalement, ça coûtait moins cher d'acheter un bâtiment plutôt que de le louer pendant des décennies. Mais la réduction du train de vie de l'État, c'est vrai que ça revient en permanence. Et plus que la question des institutions, ce qu'on entend souvent aussi, c'est le traitement des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Ça, c'est quelque chose, effectivement.
Les anciens premiers ministres ne touchent aucun traitement.
Des anciens présidents, en tout cas, oui. Effectivement, ça revient ministres. Sur la
Certains
table.
Certains sont parfois protégés.
Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose. Alain, Haute-Savoie, et si l'on ne dépensait pas l'argent que l'on n'a pas, nos anciens n'avaient-ils pas un peu raison? Là, on revient sur la gestion des finances publiques.
L'économie de père de famille.
Bon, en tout cas, ça va être un problème, une difficulté pour Gabriel Attal, parce que devant nous, il y a peut-être des efforts à demander aux Français, peut-être davantage de mauvaises nouvelles, peut-être pas la rigueur, mais...
Poincaré a eu du mal sur ce, là-dessus, Raymond Barre aussi. Enfin, je ne sais pas si Gabriel Attal aura plus de succès que ses prédécesseurs. Donc oui, on va vers une politique quelque part qui, sans le dire, sera une politique de rigueur.
Les classes moyennes seront-elles encore les boucs émissaires pour combler le déficit abyssal de l'État? Il a répondu
et il s'est engagé, pas d'impôts supplémentaires. Il n'a pas repromis la baisse d'impôts promise aux classes moyennes des 2 milliards. Il faut suivre cette affaire, parce que comment arriver à tenir cette promesse dans la situation où nous sommes maintenant, c'est un point d'interrogation de 2024.
Qui va vouloir devenir professeur dans un tel climat d'insécurité au sein de l'école?
Il y a un vrai problème de vocation, d'abord, et de formation. Ce problème de vocation, il est dû aussi à l'insuffisance des traitements, du niveau de vie des enseignants, mais il est de plus en plus inhérent aux conditions de travail et à cette violence qu'il ressent, violence physique et violence morale dans le cadre de l'enseignement.
Et que dire du contenu des programmes scolaires qui évitent d'aborder les sujets dits sensibles? Est-ce que c'est le cas?
Je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour les programmes scolaires. En revanche, ce qui est vrai, c'est que de plus en plus de professeurs avouent s'être déjà auto-censurés dans leur vie pour ne pas créer justement le mauvais buzz, l'incompréhension,
Enquête
etc.
IFOP 2023, 48% des enseignants déclarent s'être auto-censurés.
Pour les profs
et ils n'étaient que 37% trois ans avant. Ouais. Donc on est passé vraiment à un enseignant sur deux qui est inquiet sur ces questions.
Et Jérôme, je crois que les profs... C'est que le
prof d'histoire d'histoire géo.
Oui. Ça monte à 60% parce que c'est les sujets où il peut y avoir le plus de
crispation.
Voilà.
Eric, qui est enseignant retraité, l'uniforme rendu obligatoire dans tous les établissements scolaires pourrait-il empêcher ce type de problème? Peut-être avec vous, Guillaume Daret, sur ce sujet-là. Ça aussi, c'est une proposition qu'avait faite le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel
Absolument.
Attal.
Ça, c'est aussi quelque chose qu'il va vouloir tenir. Alors, on voit qu'il y a un certain nombre d'établissements qui s'en sont retirés, qui étaient volontaires dans un premier temps, qui se sont retirés par rapport au premier tour de table qui a eu lieu. C'est aussi l'une des volontés effectivement du désormais Premier ministre Gabriel Attal, c'est de dire l'uniforme, ça doit être un outil de lutte contre la discrimination sociale en fonction des vêtements, mais ça doit être aussi un outil de lutte contre le communautarisme et évidemment pour défendre la laïcité.
Ne devrait-on pas enseigner l'histoire des religions et l'athéisme à l'école?
Eh bien, c'est ce que proposait notamment la fameuse loi de 2004, de la commission Stasi qu'il avait conçue, prévoyait d'abord de lutter contre les signes ostensibles, mais aussi de proposer l'enseignement des religions et de l'athéisme, qui ça me paraît évidemment une nécessité aussi. Ça, malheureusement, on ne le trouve pas très très souvent, et en tout cas de manière insuffisante.
Demain, vous retrouvez en direct à 17h30 Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que nous sommes désormais diffusés et rediffusés à 21h sur la télé, sur la chaîne France Info, c'est le canal 27, et le matin sur France 5 à 9h. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.